Alors, la plateforme de l'opposition G7 demande au président du Rassemblement de convoquer une réunion en vue d'adopter des stratégies communes pour obtenir la transition sans Kabila. Dans une lettre publiée mardi dernier, le président du G7 a précisé que cette réunion devra également statuer sur les modes de communication à adopter pour pérenniser l'unité et l'efficacité du Rassemblement. Comment analyser cette démarche du G7? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Dr Didier Molichaud. Il est député national de l'opposition et secrétaire exécutif de la plateforme G7, membre du Rassemblement. Bonsoir Dr Didier Molichaud.
Bonsoir.
Augustin Kabouya, porte-parole du parti politique UDPS, membre de la plateforme Rassemblement. Bonsoir Monsieur Augustin Kabouya.
Bonsoir Monsieur Guimaté, bonsoir Dr Molichaud.
Et Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir, monsieur Christian Moleka.
Bonsoir, Guimaté, et bonsoir à tous mes co-débatteurs.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Dans cette lettre adressée à Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, datée du mardi 9 janvier dernier, et dont l'objet est position du RASOP sur l'accord du 31 décembre 2016, Pierre Lumbi, président du G7, indique notamment qu'il convient que les deux plateformes aient à ce jour le même entendement sur le sort de cet accord. Alain Irung nous présente le contenu de cette correspondance.
Monsieur le Président, à cette étape importante de notre lutte commune pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays, il est fondamental que nos points de vue soient toujours harmonisés sur les questions essentielles, notamment de stratégie et de communication, de manière à renforcer notre unité et l'efficacité de notre action. Dans ce sens, le G7 estime notamment qu'il convient que nous ayons le même entendement sur le sort de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 à la date de ce jour, ainsi que sur les voies et moyens d'atteindre l'objectif stratégique de la transition sans Kabila. Nous devrions aussi convenir des éléments de langage à tenir quant à ceux. À cet effet, le G7 vous propose de convoquer sans tarder une réunion des composantes de notre famille politique dans le format le plus approprié. Le G7 vous saura gré de bien vouloir accorder à la présente toute l'attention et la diligence qu'elle requiert. Il vous réitère sa franche collaboration. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération très distinguée.
Merci à vous Alain Irung, Dr Didier Molichaud. Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et secrétaire exécutif de la plateforme G7, membre du Rassemblement. Le président du G7 adresse une lettre au président du Rassemblement dont l'objet est formulé ainsi, position du RASOP sur l'accord du 31 décembre 2016. Cela veut dire que le G7 a des choses à reprocher au président du Rassemblement au sujet de sa perception sur l'essor de l'accord de la Saint-Sylvestre.
Merci de l'occasion que vous me donnez pour débattre de la question. Je commencerai d'abord par vous dire que la lettre témoigne du fonctionnement normal du rassemblement, parce que la lettre, c'est une demande de réunion. Quoi de plus normal que dans une organisation, une des composantes inscrive à l'ordre du jour quelques points qu'elle aimerait débattre dans une réunion de l'organisation. Deuxième élément, c'est le regret pour le G7 que cette correspondance qui devait rester interne soit rendue publique. Et troisième élément, c'est vous dire que le G7 considère que le rassemblement fonctionne et que le Rassemblement est une organisation démocratique qui, pour son efficacité, doit harmoniser les éléments de langage parce que nous traversons une période particulière de l'histoire de notre pays.
Alors, qu'est-ce que vous approchez? Qu'est-ce que les G7 reprochent au président du Rassemblement au sujet du sort de l'accord du 31 décembre 2016?
Reprocher? Le G7 ne reproche rien au président du Rassemblement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la lettre est une lettre de demande de réunion et comme dans toute organisation démocratique, une composante peut inscrire de points à l'ordre du jour d'une réunion qu'il souhaite qu'elle soit organisée. Et c'est dans ce sens-là que vous devez prendre cette correspondance. Nous ne reprochons rien au président du Rassemblement. Nous demandons tout simplement au président du Rassemblement d'inscrire à l'ordre du jour deux points. Et nous demandons au président du Rassemblement de tenir une réunion et c'est tout.
Alors, s'il s'agit d'une simple demande d'organiser une réunion, vous pensez que le président du G7 avait besoin de le faire à travers une lettre? Vous dites qu'elle n'est pas ouverte, c'est une correspondance interne, mais vous pensez qu'il y avait nécessité de lui parler à travers une lettre, quand on sait que les deux présidents ils se voient souvent, ils sont souvent ensemble?
Ce n'est pas la première lettre. Hein. Le Rassemblement existe depuis 2016 et dans le fonctionnement du Rassemblement, ce n'est pas la première lettre que le G7 adresse au président du Rassemblement.
Voilà,
à l'époque de fait président Tshisekedi, le Rassemblement et le G7 a adressé plusieurs correspondances au président du Conseil des sages du Rassemblement pour demander d'inscrire une question à l'ordre du jour ou demander qu'une réunion soit convoquée.
Voilà, c'est pas la première lettre que le G7 adresse au président du Rassemblement. Nous prenons le premier paragraphe de cette lettre qui dit ceci. À cette étape importante de notre lutte commune pour la démocratie et l'état des droits dans notre pays, il est fondamental que nos points de vue soient toujours harmonisés sur les questions essentielles, notamment des stratégies de communication, de manière à renforcer notre unité et l'efficacité de notre action. Et docteur Molichaud, aidez-nous à comprendre. Vous voulez dire quoi par là?
Mais je crois que les termes sont clairs. Nous voulons préciser ici que nous sommes dans une période particulière de l'histoire de notre pays. Et dans cette période particulière, le Rassemblement qui a pour mission de lutter pour que l'alternance arrive dans ces pays pour le bonheur de ce peuple congolais, se doit d'être efficace dans ses actions. Et quoi de plus normal que de demander qu'on harmonise le point de vue pour être plus efficace? Je trouve tout à fait normal.
Est-ce que, en amont, le G7 ne s'est pas rendu compte que, au sein du Rassemblement, les points de vue étaient divergents? C'est pourquoi, bon, il a mené cette démarche pour demander au président du Rassemblement de pouvoir harmoniser les points de vue sur les questions essentielles. Ce n'est pas ça.
Non, vous savez que le Rassemblement est composé, est constitué de 10 composantes. Et quand vous avez une organisation qui a 10 composantes et qui ne fonctionne pas sur le mode d'autorité morale comme certaines organisations, les débats démocratiques est de mise. Et pour certaines questions pour lesquelles on n'a pas dégagé un consensus fini, c'est normal que chaque composante, gardant son autonomie positive, peut donner un point de vue. Et c'est pour cette raison que, pour plus d'efficacité, le G7 a souhaité que cette réunion se tienne pour élaborer les éléments des langages de manière à ce que notre lutte soit beaucoup plus efficace.
Le deuxième paragraphe dit ceci. Dans ce sens, le G7 estime notamment qu'il convient que nous ayons le même entendement sur le sort de l'accord du 31 décembre, ainsi que sur les voies et moyens d'atteindre l'objectif stratégique de la transition, ça vous mettez entre guillemets, de la transition sans Kabila. Cela veut dire quoi? Qu'au sein du Rassemblement, vous n'avez jamais levé l'option sur le sort de l'accord du 31 décembre?
Je voudrais bien...
Comment vous considérez cet accord aujourd'hui?
Je voudrais bien que...
Parce que quand on attend les membres du Rassemblement, notamment ceux de l'UDPS, ils ne parlent plus de l'accord, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de l'accord. Ils parlent plutôt d'une transition sans Kabila. Mais est-ce que vous avez le même entendement par rapport à cette question?
Je voudrais bien que les choses soient claires. Le débat de ce soir porte sur la lettre que le président du G7 a adressée au président du Rassemblement.
Et nous sommes dans cette lettre.
Et vous ne pouvez pas, à ce stade, me demander ce que je pense alors que la réunion n'a pas encore eu lieu. Attendez que la réunion ait eu lieu et à ce moment-là, je vous donnerai la réponse qu'en pensez. Mais à ce stade, comprenez que la lettre est une demande de réunion et la lettre contient l'ordre du jour que le G7 soumet au président du rassemblement. Et la lettre ne donne pas la position du G7. Bien sûr, le G7, quand il ira à la réunion, il amènera sa position et le G7 a sa position. Mais aujourd'hui, souffrez que je ne vous donne pas la position du G7 par rapport aux questions qui sont soumises à un débat au niveau du rassemblement.
Augustin Kabouya, porte-parole du parti politique IDPS, membre de la plateforme Rassemblement. La lettre est adressée à M. Félix Tshisekedi, qui est président du Rassemblement et secrétaire général, n'est-ce pas, adjoint de l'IDPS. Comment M. Félix Tshisekedi a réagi lorsqu'il a reçu cette correspondance?
Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes, pour la question. Je pense que Dr Molicho a tout dit. Si vraiment tout dépendait de moi, je ne voyais même pas l'importance de cette émission, puisque la réunion est prévue pour demain. Et si nous voulons que la démocratie règne dans notre pays, on ne peut pas interdire à une plateforme politique d'émettre son point de vue. Et surtout que c'était une lettre interne, comme Dr Venin peine de le souligner. Moi, je dois seulement vous prodiguer un petit conseil. Au lieu de montrer à la face du monde que l'IDPS est en guerre contre l'IDPS, loin de là cette idée au niveau de l'IDPS, nous nous encourageons. C'est la raison pour laquelle l'IDPS est toujours battue. Vous savez que l'IDPS est la fille aînée de l'opposition. L'IDPS est toujours battue pour la liberté d'expression de tout un chacun et de toute formation politique. Au stade actuel, je peux vous demander d'avoir le calme, puisque la réunion est prévue pour demain. Et le G7 qui a demandé la convocation de cette réunion, le docteur l'a bien souligné, moi je ne vois pas pourquoi, je dois maintenant commencer à vous donner le point de vue d'un président de notre plateforme politique qui est en même temps notre secrétaire général adjoint. Moi ce que je peux condamner, les regrets que le docteur vient à peine d'afficher par rapport à la publication de cette lettre, c'est le même regret que j'ai aussi. Puis c'est une lettre interne adressée au président du Rassemblement. Bon, la lettre, la fuite de la lettre a eu lieu quand on a mené la lettre chez le président, ou bien la fuite est venue au niveau du G7, ou soit au cabinet du président du Rassemblement. Ça, ce n'est pas le problème. Ce qui intéresse les Congolais au stade actuel, c'est de voir vraiment l'alternance réalisée dans notre pays avec le départ de Joseph Kabila.
Augustin Kabouya,
la correspondance, il y en aura toujours.
Augustin Kabouya, vous dites...
Actuel, je me réserve de tout commentaire au sujet de cette correspondance.
Voilà, c'est une lettre interne, c'est ce que vous confirmez. Et vous dites que l'IDPS n'est pas en guerre contre le G7. Mais il faut se rendre à l'évidence que cette lettre révèle des choses. Au sein du Rassemblement, vous n'avez pas les mêmes points de vue sur vos stratégies et vos modes de communication. C'est ce que révèle cette lettre.
Merci beaucoup pour cette précision. Je pense que Dr Molicho, que je salue en passant, et moi-même, nous siégeons toujours avec lui dans la commission qui parle de nos stratégies. À ce qui concerne même les problèmes de l'élément de langage, ce dossier a été toujours traité conjointement avec lui. Je pense que ce n'est pas à travers la radio que nous pouvons venir maintenant commencer à expliquer comment est-ce que le dossier de l'élément de langage est traité au sein du Rassemblement. Et il faut aussi retenir, d'après l'acte de Genval, chaque composante garde son autonomie. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit reprocher au G7, au stade actuel, d'avoir écrit au président. Le G7 a fait sa part des choses. C'est tout à fait normal. Tout comme la dynamique peut aussi écrire, tout comme aussi l'AR peut écrire, tout comme l'IDPS aussi peut écrire. Je pense qu'au cours d'une réunion, j'avais évoqué le même problème quand on voulait reprocher à notre secrétaire général pourquoi il avait déposé tel document à tel endroit. Moi, j'étais la première personne à répondre, je cite, « Chaque composante garde son autonomie ». Aujourd'hui, nous sommes en train de montrer à la face du monde comment est-ce que la démocratie règne au sein du Rassemblement.
Oui,
on ne peut pas vraiment chercher des midi à 14h. Attendons voir. Si le G7 a une autre position derrière sa lettre, on le saura.
Oui, Augustin Kabouya, si, comme vous le dites, au niveau des stratégies et des modes de communication, il ne se pose aucun problème, Cela veut dire que, logiquement, votre réaction, lorsque vous avez reçu cette lettre, la première réaction serait tout de suite de rejeter cette lettre parce qu'elle n'aurait pas sa raison d'être.
Non, écoutez, je viens de vous le dire ici, à travers votre micro, nous, au niveau de l'IDFS, au niveau du rassemblement, chaque fois, quand nous tenons nos réunions, au sujet d'éléments de langage, on a toujours discuté. Si aujourd'hui, le G7 a un autre élément nouveau, attendons voir, demain, nous allons échanger, messieurs les journalistes. Vous savez, nous, au niveau de l'IDFS, je parle surtout de l'IDFS, tout ce que nous faisons, nous avons toujours associé la presse pour que la presse soit informée de nos activités. Au stade actuel, je ne vois pas pourquoi vous voulez toujours avoir les informations qui ne cadrent pas avec l'esprit même du G7. G7 a écrit, attendons voir demain, il y aura une réunion convoquée au plus haut niveau où les responsables de chaque composante vont se retrouver. Attendons, ne soyons pas pressés, messieurs les journalistes.
Oui, G7 a écrit une lettre qui est claire et donc nous avons, n'est-ce pas, le devoir et l'obligation de l'analyser. Et l'UDPS ainsi que certaines plateformes du rassemblement continuent à maintenir l'idée d'une transition sans Kabila. Pendant que le G7, ça c'est une presse qui l'a dit, le G7 ainsi que certaines autres plateformes, n'est-ce pas, du rassemblement, affirment que le rassemblement devrait plutôt consacrer toute son énergie à la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre et que parler d'une transition sans Kabila serait contre-productif, n'est-ce pas une rupture, même si vous ne voulez pas le dire, une rupture entre le président du G7 et celui du rassemblement.
Non, écoutez, mais pourquoi on parle de la démocratie, messieurs les journalistes? Pourquoi on parle de la liberté d'expression? Vous voulez maintenant nous amener dans une église où nous allons tout dire amen, amen. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des contradictions? Pourquoi vous reprochez à Kabila que non, au moment où le G7 avait sollicité ça chez Kabila et Kabila n'était pas d'accord, c'était ça, c'est ce qui était à la base de la séparation. Ce n'est pas de cette manière que nous voyons la chose. Nous pensons que chaque composante est libre de s'exprimer. Nous ne pouvons pas parler de divorce ou quoi que ce soit. Ce n'est pas quelque chose qui peut peut-être vous effrayer. Laissons le G7. Le G7 a écrit. Et nous attendons qu'on nous donne l'interprétation ou bien la meilleure compréhension de cette correspondance. S'il était prévu que le rassemblement au mois de janvier puisse vraiment connaître certaines situations qu'il ne va plus vous arranger, on les saura. Comment est-ce que vous nous demandez de donner l'interprétation sur une lettre que nous ne connaissons même pas dans quel esprit ça a été rédigé?
Augustin Kabuya.
Nous disons, nous donnons la chance à tout un chacun, la population nous regarde. Au jour d'aujourd'hui, la population n'est pas préoccupée par des petites choses-là. La population est préoccupée par le départ de Joseph Kabila qui a déjà consommé tous ses deux mandats. Au sujet de la transition sans Kabila, au sujet du respect de l'accord, il y a encore un débat là-dessus. Nous ne pouvons pas engager ce débat-là à travers les médias. Demain, il y aura réunion et puis vous serez fixé.
Merci Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre analyse par rapport à cette situation, vous avez suivi le docteur Molichaud qui a donné ses arguments. Vous avez suivi les arguments avancés par Augustin Kabuya. Comment vous analysez cette situation?
Merci Guy Maté pour la parole. J'ai pris connaissance également de la correspondance sur les médias. Et ce qui m'a frappé en le lisant, c'est, je dirais, la récurrence de certains verbes. Vous avez s'accorder, harmoniser, convenir, avoir le même entendement. Cette insistance-là sur ces quatre verbes traduit une sorte de malaise. Lorsqu'un expéditeur s'adresse à son partenaire et qu'il insiste sur des verbes comme ça, ça laisse penser qu'il y a une sorte de, je dirais, de malentendu qu'il faut lever. Et cette lettre, je ne dirais pas qu'elle traduit le malaise qu'il y a entre l'UDPS et le RASOP, mais laisse penser qu'il y a des couacs au niveau de la communication. Et ces couacs peuvent même être observés avant la lettre. Si vous prenez les déclarations depuis le début de l'année des quelques cadres du G7, vous avez, du RASOP plutôt, vous avez Monsieur Wanga qui a fait une déclaration sur une plateforme électorale qui a été vraisemblablement très mal interprété. Puis il y a M. Lutundu là qui est passé sur l'une des chaînes nationales pour donner un autre point de vue. Puis vous avez un communiqué conjoint qui a été signé la semaine dernière comme pour dire il y a une campagne de sape de l'image monter pour casser le RASOP. Et puis aujourd'hui, vous avez la lettre. Donc nous sommes à la quinzaine du mois, mais quand vous cumulez déjà ces sorties médiatiques, vous sentez qu'il y a une sorte de malaise qui ne dit pas son nom. Maintenant, attendons voir si la rencontre de demain, telle que tous l'ont dit ici sur le plateau, va confirmer ou infirmer cette hypothèse. Mais on a l'impression, en lisant le document, qu'il y a certainement une sorte de malaise entre le G7 et les rapports sur RASOP qui ne dit pas son nom.
Voilà, vous parlez de la récurrence, n'est-ce pas, de certains mots. Il y a aussi l'approche utilisée par le G7, le fait de s'adresser au président Félix Tshisekedi à travers une lettre, alors que c'est des gens qui sont censés se voir souvent, être souvent ensemble. Est-ce que cela non plus ne reflète pas
ça, ça ne dérange pas. L'échange épistolaire, c'est une pratique, je dirais, administrative normale entre partenaires. Par contre, ce qui inquiète, c'est que les deux parties rejettent ce que j'appelle cette fuite-là sur les médias. Donc, si ce n'est pas une fuite initiée par le G7, encore moins par l'UDPS, donc il y a déjà là un problème encore d'interprétation sur c'est l'apparition de ces documents sur Internet. Or, si ce document a fuité, et que la fuite n'est ni de l'UDPS ni du RASOP, il faut qu'on se pose des questions sur les mécanismes de transmission de documents. Donc il y a certainement des malaises qu'on peut relever dans ces documents.
Christian Moleka, dès lors que la lutte était celle d'instaurer une transition sans Kabila si au 31 décembre 2017 les élections n'étaient pas organisées, et que l'on se rend compte que ces élections n'ont pas été organisées en 2017 et que Kabila est toujours là en 2018, il n'est pas irrationnel, irrationnel plutôt, d'évaluer ses stratégies afin de mettre en place de nouvelles méthodes sous le nom. On estime que celles qui ont été utilisées jusque-là n'ont pas produit des résultats escomptés.
Bon, l'irrationalité est une stratégie rationnelle en politique. Je pense qu'il y a une sorte, je ne dirais pas d'entêtement, mais une sorte d'obstination du RASOP à construire un discours autour de la transition sans Kabila. Vous vous rappellerez que ce discours a commencé depuis le mois de juillet. L'année passée, le président Félix Tshisekedi a fait un point de presse où il a fait allusion. Cette demande a été rappelée aux Nations Unies, cette demande a été rappelée à Nikki Haley à Kinshasa, quand même Nikki Haley parlait d'un processus électoral l'année prochaine. Donc cette obstination du RASOP à maintenir ce discours de transition sans Kabila peut d'une certaine manière gêner certains membres. C'est plausible, d'autant plus que l'Église catholique qui a le comité laïque catholique qui a amené les mouvements des manifestations du 31 décembre s'appuie essentiellement sur le respect de l'accord, sur la mise en œuvre de l'accord. Donc il y a à un moment donné cette dichotomie entre respecter l'accord qui demande à Kabila de rester ou mettre en place une transition sans Kabila qui est donc la fin de l'accord. Mais demander une chose qui met en mal l'accord, c'est difficile à défendre à un moment donné.
Et au fur et à mesure qu'on tend vers les élections conformément au calendrier publié par la CENI, et si les ambitions ne sont pas bien gérées au sein du Rassemblement, est-ce qu'il sera étonnant de constater des divergences de vues au sein de cette plateforme?
Bon, déjà, il faut déjà rappeler qu'en 2011, l'opposition nous a donné encore, je dirais, cet exemple de mes gestions d'ambition, parce qu'en 2011 nous avions le président Tshisekedi de triste mémoire, monsieur Kamere et monsieur Kengua Dondo. Il fallait le concept était candidat commun, il fallait candidat unique ou candidat commun. On a eu du mal à construire autour d'un candidat le projet de l'opposition. La crainte, c'est que la multiplication des ambitions aujourd'hui, on a déjà trois candidats au sein du RASOP. Il y a monsieur Félix qui est candidat déclaré. Il y a M. Fayoulou qui est candidat déclaré. Il y a M. Moïse Katumbi qui est également candidat déclaré. Ce foison d'ambition peut, à terme, je ne dis pas forcément, mais peut conduire à ce que nous revivions le scénario de 2011 où l'opposition a à nouveau éclaté.
Et cette démarche du G7, si les autres plateformes du Rassemblement n'arrivent pas à bien l'intérioriser, elle peut produire quoi? Est-ce qu'on ne peut pas redouter l'implosion du Rassemblement? On sait comment les choses commencent. Augustin Kabouya l'a rappelé. Les G7, ils ont eu des problèmes au sein de la majorité présidentielle. Ils avaient commencé. En fait, tout était parti d'une telle démarche. Ils ont écrit trois lettres ouvertes au chef de l'État, et à la fin, bon, c'était la rupture. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, par rapport à cette démarche, redouter, n'est-ce pas, l'implosion du Rassemblement?
Bon, le doute persiste, mais en même temps, il faudrait espérer que les acteurs politiques fassent preuve de beaucoup de maturité et que les ambitions personnelles soient diluées sous l'intérêt commun. Je pense que nous ne pouvons présager de tout ça qu'après la réunion de demain. Il serait difficile à ce jour de dire comment nous finirons l'année avec la plateforme, même s'il y a des éléments de doute qui peuvent aujourd'hui nous pousser à nous questionner sur l'avenir de la plateforme.
Alors, ça peut profiter à qui cette fuite-là? Parce que dès lors que une lettre qui était censée être interne est maintenant publique, bon, les adversaires politiques vont l'exploiter, n'est-ce pas, contre le RASOP. Cette fuite peut profiter à qui, à votre avis?
À mon avis, à tous les deux. La lettre, d'un point de vue de la majorité, ça peut laisser penser que voilà, nous vous disons qu'il n'y a pas d'unité, et cette lettre confirme qu'il y a exactement de petits cailloux dans la machine. D'un point de vue de l'opposition, ça peut dire le contraire. Ça peut dire voilà, il y a de l'unité, il y a une volonté de se mettre ensemble, et cette correspondance prouve évidemment qu'il y a encore des passerelles d'échange entre les plateformes. Donc tout dépend de la communication de chacun.
Docteur Didier Moluchot, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Chikapa au Kasaï.
Je suis Alex Ekodioshua de Chikapa au Kasaï. Après le débauchage de plusieurs cadres de cette plateforme, vu l'évolution de la situation politique actuelle et étant donné que l'objectif initial d'obtenir une alternance au pouvoir n'est pas encore atteint, une telle réunion est souhaitable, elle est même recommandée. Elle permettra de resserrer les rangs, évaluer les activités déjà entreprises et réfléchir sur la suite du combat à mener. Après, on apprend que le G7 voudrait se retirer de la plateforme ou rejoindre le pouvoir. On ne sait pas, on va voir ce qui va se passer.
Oui, docteur Didier Moluchot.
Merci beaucoup, ça me fait rire la fin de l'intervention de notre compatriote Alex. Je suis tout à fait d'accord avec lui, hein, parce qu'il affirme que la tenue d'une telle réunion a son importance au stade actuel. Mais là où je ne partage pas son point de vue, c'est qu'ils disent que le G7 voudrait rejoindre. Bon, le G7 aujourd'hui, ça je tiens peut-être à le rappeler, est constitué par des gens qui ont démissionné des fonctions pour défendre la constitution de la République et défendre l'intérêt général. Ça, peut-être que les gens l'oublient si facilement. Alors, s'il y a des gens qu'on va débaucher, qu'on ne les cherche pas au G7, qu'on les cherche ailleurs, parce que si les G7 voulaient rester au pouvoir, les G7 pouvaient bien rester au pouvoir. Mais les G7 a préféré abandonner les positions. Deuxième élément, je pense que M. Christian, quand il lit la lettre et qu'il choisit certains verbes, je suis tout à fait d'accord, mais quand on choisit un verbe, il faut aussi s'attarder sur le finalité, parce qu'une phrase, il y a un verbe, il y a un complément. La lettre insiste sur certaines choses, c'est l'efficacité. Et quand on insiste...
Harmoniser les points de vue.
Oui, c'est pour l'efficacité. Si on insiste sur l'efficacité, c'est qu'on voudrait que l'organisation soit efficace. Et je pense que vous avez suivi Monsieur Augustin quand il a parlé ici. C'est dommage que aujourd'hui, qu'il y ait des gens qui trouvent du plaisir à mettre sur la place publique des éléments qui devaient rester internes et confidentiels. Ceux qui ont mis la lettre sur la place publique, eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils recherchaient, mais je pense qu'ils se sont trompés, parce que le G7 ne cherchera jamais autre chose que l'efficacité de l'action du rassemblement.
Docteur Didier Moluchot, que répondez-vous à ceux qui disent que ce qui vous divise au sein du rassemblement, c'est le fait que le G7 aujourd'hui se rend compte qu'il faut s'impliquer dans les processus électoraux et conformément au calendrier publié par la CENI, parce que le G7 a des ambitions, le G7 serait prêt, n'est-ce pas, à aller à ces élections, mais que en face, vous avez l'UDPS qui, apparemment, sur le plan financier, sur le plan stratégique, et surtout qu'ils n'ont pas encore organisé, n'est-ce pas, leur congrès, l'UDPS ne serait pas prête à aller aux élections, et que ce serait ça la pomme de discorde au sein du rassemblement entre les G7 et l'UDPS. Comment vous répondez à ces
gens? Je tiens ici à insister sur le fait qu'il n'y a pas de problème entre le G7 et l'UDPS au sein du rassemblement. La lettre est une demande de réunion et la lettre précise le projet d'ordre du jour de la réunion. Quoi de plus normal, Monsieur Alain,
Monsieur Guimaté.
Et Monsieur Guimaté, excusez-moi. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que vous savez, ici, dans notre environnement politique, on veut opposer les gens, même les gens qui sont... Les G7 et l'UDPS sont parmi les piliers du rassemblement. Aujourd'hui, ces deux piliers du rassemblement ne peuvent pas se mettre dans des conflits. Alors que les deux piliers du rassemblement tiennent à ce que les rassemblements soient les plus efficaces possibles.
Augustin Kabuya annonce que c'est demain qu'il y aura cette réunion que le G7 a proposée à travers cette lettre. Et si à l'issue de cette réunion, le G7 se rend compte que les points de vue ne sont pas harmonisés sur les questions essentielles telles que dit dans cette lettre, comment le G7 va réagir?
Non, le G7 n'a pas à présager de l'issue d'une réunion. La réunion aura lieu. Et attendez à l'issue de la réunion ce qui va advenir.
Il faut reconnaître que chaque plateforme a ses ambitions, n'est-ce pas?
C'est clair, mais demain, le G7 va défendre sa position. Il y a d'autres composantes qui vont défendre leur position. Le rassemblement est constitué des 10 composantes. Hein. Et vous savez que quand vous êtes à 10 composantes, ce n'est pas par un vote démocratique. Le mot de prise des décisions, c'est le consensus. Et on va dégager un consensus, certainement qu'on va dégager un consensus. Et à partir du moment où on dégage le consensus, et c'est les détails même de la lettre, on va construire des éléments de langage pour plus d'efficacité.
Mais le consensus n'est pas toujours évident. On se rappelle les débats qu'il y a eu au sein du Rassemblement au sujet de la réforme, n'est-ce pas, de cette plateforme. Au départ, on disait que on tendait vers le consensus. Finalement, c'était la division. Il y a une partie qui est partie, qui s'est rendue du côté de la majorité présidentielle, qui aujourd'hui est en train de gouverner le pays. Est-ce que vous pensez que il y aura ce consensus lorsqu'on connaît la psychologie, n'est-ce pas, des dirigeants politiques congolais, des hommes politiques congolais qui s'accrochent sur des intérêts égocentriques?
En tout cas, ces dirigeants-là, vous ne les recherchez pas du côté du G7. Le G7 s'est battu pour l'intérêt général. Et s'il y a des gens qui vont partir, rejoindre la majorité parce qu'il n'y a pas consensus, il faut les rechercher ailleurs, pas au G7.
Augustin Kabuya, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lubumbashi.
Maxime Kabila, j'appelle depuis la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. De la pire distraction de l'année. Moi, je ne vois pas Kabila et sa majorité jeter l'éponge et laisser place à une transition. Au contraire, le G7 et les RASOP limités devraient travailler pour l'unité à son interne dans la perspective de gagner les élections à venir au lieu de rêver à une transition sans Kabila au moment où il y a déjà un calendrier publié à cet effet et qui prévoit les élections au 23 décembre 2018. Vous conviendrez avec moi que le dit calendrier a été acté par la CENCO et par la communauté nationale et internationale dans son ensemble. Tous sont unanimes qu'à cette date-là, les élections doivent s'organiser et que Kabila ne sera pas candidat pour un troisième mandat, ce qui est constitutionnel. Moi, je pense que le RASOP devrait se joindre à la CENCO pour exiger l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, car la crise actuelle est le sous-bassement de la non-application intégrale de l'accord.
Augustin Kabuya.
Oui, merci, M. Guy Maté. Je pense que l'intervenant de tout à l'heure a réagi par rapport à tout ce qu'il a comme information. Si aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent aller aux élections avec M. Joseph Kabila parce que Nang a publié un calendrier qui est soutenu, selon lui, par la communauté internationale, la CENCO, machin, j'ai dit que c'est un rêve. Je prends un petit exemple avant de répondre à d'autres préoccupations. Monsieur Guy Maté, vous pouvez me citer le nom d'un seul homme politique qui ne fait pas partie de la mouvance kabiliste qui se déplace dans notre pays pour organiser un meeting sans toutefois être inquiété par le régime en place? La réponse est non. Si pour l'organisation des petits meetings dans les coins de la République, il y a la répression dans les sangs, et vous pensez que demain, s'il y a le problème électoral, tout sera comme au paradis, qu'on cesse de rêver, M. Guy Maté. Nanga a publié son calendrier pour séduire l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais en réalité, M. Joseph Kabila n'est pas disposé pour favoriser un processus électorale acceptée par tout le monde. Rentrons même dans cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre de salive, de respect de l'accord. Nous avons signé cet accord depuis le 31 décembre de l'année 2016. Mais qu'est-ce que M. Moïse Katumbi fait à l'extérieur? C'est parce qu'il veut vivre à l'extérieur ou bien parce qu'il y a une seule personne qui ne veut plus le voir rentrer dans son pays? Qu'est-ce que Moussa Nyamwisi fait là-bas? Qu'est-ce que John Ndongala fait en prison? Qu'est-ce que Frank Diongo fait? C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une volonté par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer. Je pense que dans notre pays, les gens sont mal habitués. Il y a les gens, quand il n'y a pas une crise quelque part, quand il n'y a pas un conflit, ils ne peuvent pas vivre calmement en paix. Vous avez déjà oublié que dans cette ville, il y a des gens qui propageaient partout que Moïse Katumbi a déjà acheté l'IDPS. Si Moïse Katumbi avait acheté l'IDPS, pourquoi aujourd'hui revenir sur la correspondance des G7 adressés à l'IDPS? On pouvait se taire, dire que non, non, nous savons que Katumbi a déjà acheté l'IDPS, les choses peuvent évoluer, mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui prêchaient au petit peuple que non, méfiez-vous de ces gens-là, ce sont des bandits de Katumbi, ce sont les mêmes qui reviennent pour dire que non, il y a des malaises entre G7 et l'IDPS. Je pense que ce qui préoccupe le peuple congolais, M. Guy Maté, c'est de voir Kabila partir calmement. Tout ce qu'on fait là, je peux vous dire, c'est l'œuvre des services. Les services ne cessent jamais d'injecter des choses au niveau de l'opinion. Moi, je peux vous rassurer, comme Dr Molicho l'a dit, il n'y a aucun problème entre l'UDPS et le G7. Mais pourquoi on parle seulement de la correspondance du G7 adressée au président du Rassemblement? On n'évoque pas d'autres correspondances, d'autres composantes membres du Rassemblement. Je pense qu'au stade actuel, les gens doivent vraiment se calmer.
Merci.
Et prier pour que le Rassemblement émerge et puisse atteindre des objectifs. C'est ce qui est plus important. Les gens aujourd'hui veulent toujours voir les rassemblements voler en éclats, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre objectif.
Merci,
nous voulons
Augustin.
Voir Kabila partir conformément à cet accord signé.
Merci,
le 31 décembre et le 31 décembre de l'année passée. Ce n'est pas de cette manière que les gens peuvent commencer à monter des choses de gauche à droite, que non, voilà, au stade actuel, il y a malaise au sein
nous avons compris, merci
mais
beaucoup.
Nous parlons de la démocratie.
Merci, Augustin Kabuya. Christian Moreka, une question pour vous, elle vient de Likasi.
Delphin Mukala Kamwanga de Likasi dans le Haut-Katanga. La démarche de la plateforme de l'opposition G7 n'aboutira à rien parce que cette plateforme soutient la candidature de Moïse Katumbi. Entre temps, il y a aussi Félix Tshisekedi, d'ailleurs le président du Rassemblement qui est aussi candidat pour les comptes de l'IDPS. Moi je vois que aussi longtemps qu'il y a toujours deux candidats à la présidence dans ces rassemblements, toutes les stratégies prises ne seront pas communes.
Tiens, Moleka.
J'ai écouté le point de vue de M. Delphin. Comme je le dis, on ne sait pas présager. En fait, à ce stade préélectoral, il est normal qu'il y ait plusieurs déclarations d'ambition. C'est tout à fait légitime. C'est de la surenchère, peut-être pour conduire à des alliances politiques demain. Est-ce qu'il y aura des primaires au sein de l'opposition? Il faut peut-être le souhaiter. Est-ce qu'il y aura des ajustements au moment opportun? Ça peut arriver. À ce stade, il est difficile de présager si au moment du lancement du processus électoral, de la campagne électorale, il y aura toujours plusieurs candidats. Ce qui est vrai, c'est que politiquement, il est normal qu'à ce stade, on ait plusieurs déclarations d'ambition. Mais non, en s'agissant du G7, comme il dit, en politique, il y a de stratégie. Si chaque parti politique ne met pas en place des stratégies pour défendre ses propres intérêts, alors la politique ne sert plus à rien. Je pense que pour le G7, je présuppose que la plus grande demande, c'est de voir leur champion rejoindre le pays pour pouvoir compétir aux élections. Il est bon à loi qu'ils tiennent à l'accord, puisque l'accord parle de décrispation et évoque des cas particuliers, notamment de leur champion qui est Moïse Katumbi. Donc il est de bon à loi et de bonne stratégie qu'ils s'y attiennent et qu'ils cherchent le soutien pour la mise en œuvre efficace de l'accord. Mais non, entre stratégie du parti et stratégie de la plateforme, il y aura toujours ces gens de couac. C'est pourquoi ces gens de réunions, de mise en commun sont nécessaires. Mais laissons voir à long terme si les ambitions vont se rapprocher ou ces ambitions vont pas s'éteindre.
Oui, mais après cette lettre du G7, comment vous entrevoyez l'avenir du Rassemblement?
Bon, je ne suis pas devin, c'est quand même difficile de parler du futur. Mais on peut quand même, par expérience, dire que quand on regarde la classe politique congolaise, quand on regarde l'histoire des plateformes, dans le passé, on peut remonter à l'USOR et allier à l'USORAL. On connaît les grandes alliances entre Tshisekedi et Ngunza Kaliban. On connaît les grandes alliances. On ne peut pas certainement prendre les éléments du passé pour expliquer les présents, mais ça nous permet de comprendre les comportements des acteurs politiques congolais. Et ça ne nous rassure pas parce qu'on sait que les acteurs politiques congolais construisent des ambitions non pas autour de projets, mais autour des individus. Et au moment des grandes échéances, quand il faudra demander à certains individus de taire leurs ambitions, ce sera compliqué. Mais ça c'est de la prédiction que ça les devins peuvent faire. Donc ce qu'on peut faire à ce stade, c'est de voir comment les choses vont avancer dans les prochains mois, jusqu'au mois de mai, puisque selon les calendriers, c'est au mois de mai que devraient commencer vraisemblablement les vrais enjeux électoraux. Donc voyons voir jusqu'au mois de mai ce qui va se passer.
Et si demain, à l'issue de cette réunion du RASOP, les points de vue ne sont pas harmonisés au sujet des questions essentielles, notamment sur l'idée d'une transition sans Kabila, sur l'essor, n'est-ce pas, de l'accord de la Saint-Sylvestre, comment vous entrevoyez la configuration de ces rassemblements?
Winston Churchill a dit une fois que les amitiés ne sont pas éternelles, c'est les intérêts sont éternels. Les alliances se font et se défont. Donc moi, ça ne me surprendrait pas si demain les alliances peuvent se défaire. Je crois que, comme je le dis, les intérêts personnels des entités sont à juxtaposer aux intérêts du collectif. Donc lorsque les intérêts des particuliers ne se retrouvent pas les intérêts du collectif, le collectif ne tiendra pas longtemps.
Docteur Didier Molichaud, cette démarche du G7 renforce, consolide ou affaiblit le rassemblement?
Je l'ai dit tout à l'heure, la démarche du G7 renforce et consolide le rassemblement. C'est tout vous dire que attendez, la réunion aura lieu et vous vivrez un rassemblement beaucoup plus fort et un rassemblement qui vise beaucoup plus d'efficacité. Parce que bon, dans une organisation, hein, c'est les débats qui nourrissent la cohésion, c'est les débats qui renforcent l'unité. Et ces débats-là vont renforcer l'unité. Parce que nous sommes à un stade particulier de l'histoire de notre pays. Le rassemblement a intérêt à harmoniser le point de vue pour plus d'efficacité. Et c'est ce que nous allons faire demain lors de la réunion.
Et en guise de conclusion, est-ce que le G7 est prêt à évoluer seul, sans le rassemblement, si à la réunion de demain, il ne trouve pas gain de cause?
Le G7 est un des piliers du rassemblement. Donc, s'il y a des gens qui doivent quitter les rassemblements, il faut aller les chercher ailleurs, pas au G7.
Augustin Kabuya, votre conclusion.
Oui, merci beaucoup, M. Guy Maté. Je peux vous rassurer que les rassemblements, c'est l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, chercher à faire éclater les rassemblements, c'est cracher sur la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai parlé de quelque chose tout à l'heure pour vous montrer combien M. Nanga est en train de jouer des jeux de la mouvance kabiliste. Et je ne peux pas conclure sans vous parler aussi du refus de Joseph Kabila de voir le corps d'Étienne Tshisekedi rapatrié dans le pays des saints enceintes. Et si pour le rapatriement d'un corps sans vie, ça pose problème, vous pensez que demain, Joseph Kabila peut faciliter les Congolais d'aller se choisir des dirigeants? La réponse est non. Et je tiens à remercier tous les auditeurs de Radio Okapi et je profite de l'occasion pour dire à tous les membres de l'UDPS que nous avons terminé les travaux de la commission préparatoire du congrès extraordinaire et dans les jours qui suivent, le secrétaire général va convoquer le congrès.
Vous avez des canaux pour vous communiquer, M. Augustin Kabuya. Voilà. Et Christian Moleka, votre conclusion?
Je dirais, pour conclure, qu'il faudrait que les acteurs politiques congolais apprennent à mettre en avant les projets que les individus, puisque plus on continuera à mettre avant les ambitions personnelles, alors on n'aura jamais de consensus, parce qu'on sait au Congo que les égos sont très forts.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Eric Sijakala qui était à la technique. Merci à Alain Irung qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondou. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Okapi.